BFM Business présente le premier concours de créateurs d'entreprises. BFM Academy saison 11 avec Nicolas Dose.
Alors bonjour et bienvenue, BFM Academy, saison 11. Là, on rentre dans le dur. La semaine dernière, on vous a fait l'histoire des castings. Ils étaient 500 candidats. Ils ont été 47 à passer les castings à Bordeaux, Lyon, Paris et Marseille. On en a gardé 10 après les délibérations du jury. Maintenant, on va commencer à les éliminer. C'est pas plus compliqué que ça. Ah oui, c'est un peu trash, je sais, mais c'est le principe. On commence avec deux candidats que je vais vous présenter dans un instant. Mais en fin d'émission, il n'y en aura plus qu'un. Et dans 5 semaines, nous en aurons plus que 5 au lieu de 10, jusqu'à la finale en juin où ils seront 3. Il n'y aura qu'un seul lauréat. Mais je vais quand même accueillir mon équipe bien-aimée, la directrice éternelle de la BFM Academy, Eve Chégaret, bonjour.
Oh ben, éternelle, c'est charmant. Oui, j'ai un moment d'éternité là avec vous.
Vous êtes bien remis des castings, tout ça.
Ah ouais, mais c'était notre tournée rock'n'roll à nous, hein, notre Tour de France. D'ailleurs, j'ai le maillot jaune Tour
exactement.
De France, voilà.
Il faut voir quand même que Eve est la seule à s'être tapé les 500 dossiers.
Enfin, je me les suis tapés, Nicolas. Je les ai lus, quoi.
Ouais, voilà. On est d'accord. Alors, elle, vous la connaissez. Elle fait partie de l'équipe quasi éternelle de la BFM Academy. Evelyne Platnik-Cohen. Bonjour, Evelyne.
Bonjour.
Bon, prête pour une nouvelle saison.
Eh oui. J'attendais que ça, en fait. Ça fait des mois et des mois que je suis dans les starting blocks.
Ouais, j'en ai reçu plein aussi des mails de gens. C'est comment ça commence quand? C'est fini? L'émission n'existe plus? Si. C'est vrai que maintenant, c'est un schéma un peu plus resserré. Sur les deux mois de printemps, c'est sympa au printemps.
Mais vous n'imaginez pas comme on est important dans la vie des gens.
Ouais. Et alors j'ai eu plein de candidats.
Dans l'entrepreneuriat.
Ouais. J'en ai aussi plein qui se sont réveillés après les dates.
Oui. Voilà. On doit avoir les mêmes là,
Bon, vous connaissez le principe, Evelyne Platnik-Cohen, on va avoir deux candidats dans cette émission. On va apprendre à savoir qui ils sont. Vous allez pouvoir leur poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Il y aura la partie un peu mouche du coach. On a écouté votre histoire, on va quand même vous dire ce qu'on pense de vous. Là, je vous laisse la main, comme d'habitude. Puis en fin d'émission, il faudra en choisir un sur les deux.
Ouais.
Bon.
Je ne sais pas encore.
D'accord.
Je ne sais pas.
Vous aurez 2 minutes pour nous dire pourquoi vous avez choisi celui-là et pas celui-là. Donc, préparez votre argumentaire, affûtez vos armes. Bon, Evelyne Platnik-Cohen, vous la connaissez sûrement si vous êtes des aficionados de la BFM Academy. Enfin, vous la connaissez pas forcément, donc un petit portrait pour nous rafraîchir la mémoire.
Evelyne Platnik-Cohen, sa spécialité, le commercial.
Je suis la dirigeante de Booster Academy. Ce sont des centres d'entraînement intensifs à la vente. Ce que je dis souvent à mes clients, c'est que je suis pas sûre de les rendre plus heureux, mais c'est évident, je vais les rendre beaucoup plus riches.
C'est une commerciale hors pair, c'est qu'elle sait les driver, c'est qu'elle sait exactement comment on vend quelque chose. C'est très très fort.
Elle va creuser, elle a un tel sens du business qu'elle voit directement les opportunités d'affaires et de développement.
Evelyne est convaincante, entraînante, même dans des conditions difficiles. C'est un husky, parfois un pitbull.
Evelyne, elle peut être très dure quand la fibre commerciale n'est pas là.
C'est ma plus grande compétitrice parce qu'avant, j'étais la peau de vache dans l'émission, puis maintenant, c'est elle.
Pour ma 3e ou 4e saison, je vous dis tout de suite, je ne laisserai ma place à personne.
Bon, si j'ai bien compris, Evelyne, elle est abonnée à la BFM Academy ad vitam, compte tenu de ce qu'elle vient de nous raconter. Alors, on a deux candidats donc qui sont avec nous cette semaine, les deux premiers de la saison 11. Je leur dis bonjour, avant de savoir qui ils sont
avant
véritablement.
De leur dire au
revoir. Voilà, c'est ça. Le premier s'appelle Adrien Deloupaoli, bonjour.
Bonjour.
Je vais commencer avec vous allez nous raconter de rigueur de quoi il s'agit. Et à côté de vous aujourd'hui, c'est Sylvain Tillon, bonjour Sylvain.
Bonjour.
Vous êtes venu nous parler de Tilki. Vous avez passé le casting de Lyon et tous les deux vous avez passé le casting de Lyon. Alors, je commence avec vous, Adrien Deloupaoli, de rigueur, on regarde en image de quoi il s'agit et on en parle juste après.
L'aventure de rigueur est née dans un grenier. Adrien Deloupaoli est le fondateur de la start-up Chiquet Hightech.
Le déclic pour de rigueur, en fait, ça a été ce sac, qui est un authentique modèle de Bézanville des années 40, que j'ai retrouvé dans le grenier de ma grand-mère, et qui m'a donné envie de réinventer les accessoires de maroquinerie d'aujourd'hui pour répondre aux problématiques quotidiennes de l'homme et de la femme moderne, de créer donc de la maroquinerie connectée.
Résultat, un étui en cuir qui recharge votre smartphone.
Ça, c'est la Connected Sleeve, c'est notre étui de maroquinerie qui permet de recharger votre téléphone portable sans fil. Soit en le posant dessus, soit en le glissant à l'intérieur. La poche, elle se recharge ensuite de deux façons, soit elle-même par induction, soit grâce à cette USB qui est cachée juste ici dans la languette.
Vous pouvez précommander le Connected Sleeve sur Internet, mais à terme, le modèle économique, c'est plutôt le B2B.
On s'est rendu compte finalement que la création d'une marque, c'est ultra cher. beaucoup de frais marketing et qu'on n'avait pas les moyens. Du coup, on s'est intéressé plutôt aux marques du luxe qui, elles, se posent des questions sur le mariage entre le luxe et le digital. Et ce qu'on leur apporte aujourd'hui, c'est notre savoir-faire en fashion tech pour l'intégrer dans leur collection.
De Rigueur cherche par ailleurs à lever 500 000 euros pour étoffer équipe technique et commerciale.
L'objectif dans 5 ans, c'est de devenir le premier bureau de la fashion tech.
En attendant, la start-up vise un chiffre d'affaires de 200 000 euros cette année et de 3 millions à l'horizon 2020.
Alors Adrien De Lupaoli, De Rigueur, je me suis demandé pourquoi ce nom. Je comprends que vous êtes rigoureux, qu'il y a une image de luxe. Enfin, c'est super dur à traduire en anglais. Comment ça vous est venu ce nom?
De Rigueur.
De Rigueur.
It is De Rigueur.
C'est
de
comme
rigueur.
Le Grand Prix.
Non, ils le disent. C'est exactement la même chose que fiancé, déjà
ah bon
vu, déjà vous.
Entrepreneur.
Exactement. Et donc, c'est une expression qui est aussi utilisée par les Américains et qui prépare du coup notre déploiement à l'international, un de ces quatre.
Et quand on dit De Rigueur aux États-Unis, on comprend la même chose que chez nous?
La même chose, c'est la situation et l'objet qui est adapté à la situation qu'on est en train de vivre.
Délire.
Évelant.
Bon alors, vous avez démarré de la maroquinerie normale en fait.
Exactement.
Le côté high-tech, comme connecté, tout ça, c'est venu après.
Exactement. Mais en fait, on l'a développé, ça prenait quand même pas mal de temps, tout ce qui est développement d'objets connectés, à peu près un an. Du coup, on a commencé avec de la maroquinerie pour apprendre de l'artisanat français et puis être capable ensuite d'intégrer de l'intelligence à l'intérieur de ces accessoires.
D'accord, mais aujourd'hui, vous êtes venu me vendre quoi? Vous êtes venu me vendre de la maroquinerie haut de gamme made in France ou vous êtes venu me vendre de la maroquinerie avec des produits classe, smart, fashion, adaptés aux usages des objets connectés et principalement, dans un premier temps, si j'ai bien compris, le fait de pouvoir recharger tout simplement son téléphone?
Aujourd'hui, ce que je suis venu vous vendre, c'est de la fashion tech. C'est exactement ça, c'est le mélange entre la mode et les objets connectés. Comment rendre intelligente, comment répondre aux problématiques quotidiennes de l'homme moderne et de la femme moderne avec des accessoires.
Et c'est quoi la problématique alors?
Et la problématique aujourd'hui, celle qu'on a identifiée, c'était la panne de smartphone.
On mais ça n'arrive jamais,
ça n'arrive jamais.
Nous sommes au bout du souffle, surtout quand on termine tous les soirs vers 11h minuit, généralement.
Exactement.
Vers 20h, il n'y a plus rien en général.
La panne, elle arrive déjà à 14h.
Alors, effectivement, on a tous suspendu. Bon, en même temps, quand on bosse dans un bureau, on a toujours la clé USB.
Mais l'homme connecté est nomade.
Oui,
l'homme connecté voyage.
Voyage, il est nomade.
Là, ce que je vois, c'est plus un coffre-fort que... On se dirait un coffre-fort.
Bon, vous avez un truc devant vous, de quoi s'agit-il? Allez-y, Adrien.
Alors ici, c'est The Connected Sleeve, qui est la première solution de recharge de smartphone, embarquée, intelligente et élégante. Et en fait, c'est une solution qui intègre une batterie de 10 000 mAh. Donc aujourd'hui, un coffre-fort, parce qu'on a beaucoup de capacité, on est en train de l'affiner pour faire quelque chose de beaucoup plus fin. Et on intègre à l'intérieur cette solution de recharge de smartphone par induction électromagnétique. Donc, hyper simple, juste on pose son téléphone dessus et il se recharge.
D'accord.
Je vais refaire, hop, en mettant le son, tac. Vous posez votre téléphone dedans, vous le posez dessus et il se recharge.
Le petit bip.
Voilà. Et ça, c'est une solution que vous emportez n'importe où, n'importe quand et qui recharge votre téléphone à n'importe quel moment. Et ici, cette solution, vous la rechargez de deux façons, soit par induction électromagnétique, qui est la technologie de recharge sans fil qui est en train d'exploser, soit par USB, ici, hop, on voit ici, le petit USB qui est ici discrètement intégré pour pouvoir recharger sur son ordinateur ou sur son adaptateur. Et ici, donc, on est sur une solution intelligente parce qu'elle discute avec votre téléphone par Bluetooth Low Energy qui permet de faire remonter des informations et d'optimiser la charge.
Et alors, pourquoi vous avez voulu mettre le côté maroquinerie made in France là-dedans? Est-ce que véritablement, vous avez senti qu'il y avait une demande de pouvoir recharger son smartphone?
Oui, c'est dit que ce soit beau plutôt que ce soit moche.
Oui, mais enfin, il ne nous a pas dit combien ça coûte. Alors, je ne sais pas combien ça coûte. Et est-ce qu'effectivement, la maroquinerie et le côté truc en lézard avaient sa place?
Aujourd'hui, déjà, comment ça coûte? On est à 99 euros TTC.
Donc, en prix le Connected Sleeve, votre premier produit.
En précommande.
En précommande.
Voilà, c'est-à-dire que les livraisons, elles commencent entre septembre et décembre,
prochain.
À la fin de cette année, exactement.
D'accord.
Et donc aujourd'hui, on est en phase de précommande. Donc on a des prix qui sont plutôt exceptionnels.
Pourquoi? C'est raisonnable, 99 euros pour un bel objet.
Ça veut dire que le gars qui va
commander
en janvier prochain, il va s'en prendre
un petit peu plus cher, en effet. Et pourquoi on est parti de la maroquinerie? Parce que notre objectif, en fait, c'était d'innover dans un secteur traditionnel, français, qui est reconnu au niveau international, et d'y ajouter de l'intelligence, et d'arriver à innover dans des secteurs qui n'ont pas bougé depuis plusieurs centaines d'années.
D'accord, et on peut imaginer qu'aujourd'hui, le Connected Sleeve, donc 90 euros
99,
pour les précommandes, 100 euros pour les précommandes jusqu'à la fin de l'année, c'est le point de départ d'une longue lignée de produits qui vont s'adapter à des quantités de trucs, la tablette ou autre chose?
De produits et surtout de services, en fait. Parce que de plus en plus, en fait, on a des marques qui viennent nous voir en nous demandant de les accompagner à intégrer dans leur collection ces solutions.
Ah, le côté marque blanche, tout ça.
Marque blanche. Alors là, j'ai un petit exemple.
Il est venu avec ses...
Oh, voilà. Colombe.
Faut faire vite, là, parce que...
Exactement. Tout simplement, je vais mettre mon téléphone ici à l'intérieur. et hop, il se recharge.
La veste magique.
La veste magique. Bon, j'imagine que Ève et Evelyne ont des quantités de questions à vous poser. J'accueille avec plaisir notre deuxième candidat de la semaine. Bonjour Sylvain Tillon.
Bonjour.
Vous allez nous parler de Tilki. On regarde en image de quoi il s'agit, on en parle juste après.
Fini les propals envoyés aux prospects à l'aveugle, Tilki entend révolutionner le quotidien des commerciaux. Cette sorte de tracker va vous indiquer non seulement si votre document a été lu, mais comment il a été lu. Démonstration avec son fondateur Sylvain Tillon.
Fin février, on a envoyé une offre à Déco pour équiper tous leurs commerciaux de Tilki. Rapidement, l'offre a été lue et on a reçu une alerte par email comme quoi l'offre était lue pendant 4 minutes 18 et que l'intérêt était de 5 sur 5. En plus, le temps passé nous indique que la page a plus lu est la page 7, la page des prix. J'ai pris mon téléphone, je l'ai appelé, on s'est rencontrés, on a signé.
Essayez Tilki, c'est l'adopter. 96% des clients se réabonnent et pour cause, les commerciaux voient leur performance progresser de manière significative.
En 2015, on a fait une grosse expérimentation avec Orange. 200 commerciaux ont utilisé Tilki et 200 n'ont pas utilisé. Ceux qui ont utilisé Tilki ont augmenté leur taux de transformation de 24%.
Tilki existe depuis 2 ans et devrait envoyer plus d'1 million d'offres cette année. Ses clients, aussi bien des start-up que des grands comptes, parmi eux Adeco. Pour Guillaume Dessaigne, directeur des opérations du groupe, il y a un avant et un après Tilki.
On a plusieurs éléments dans l'offre Adeco et si le client passe du temps sur un élément de l'offre, on sait qu'il peut être intéressé sur ce point-là. Et ça, ça nous fait vraiment gagner du temps. Ça donne un intérêt quand même supplémentaire à la prospection. Tous les côtés un peu polluants de la relance, où on appelle des clients qui n'ont pas lu l'offre ou qui ne sont pas intéressés, ça on va les enlever. Et on va vraiment se concentrer sur la valeur ajoutée de l'offre.
L'an dernier, Tilki a réalisé 150 000 euros de chiffre d'affaires. Son objectif, 3 à 4 millions d'euros dans les 4 ans.
Sylvain Tillon, avec Tilki. Tilki, vous me faites penser à Criteo, vous savez, ces systèmes aujourd'hui qui vous traquent, qui vous observent, qui vous espionnent, qui vous pourrissent la vie, en fait. Parce qu'ils vous envoient des pubs soi-disant correspondant à vos goûts. Non, en l'occurrence, en l'occurrence, vous avez un système de tracker, c'est bien ça. Vous êtes un logiciel qui est en train de traquer la manière dont mes potentiels prospects sont en train de lire, de comprendre, d'apprécier mes offres pour que je m'adapte au maximum à leurs attentes et que je leur en fourgue un maximum.
C'est tout à fait ça.
Ah, hein, voilà. Bon.
Non, l'idée, c'est
au revoir,
d'améliorer la relation client.
Aujourd'hui, dit en comme France, ça, c'est plus sympa, j'admets.
60% des offres commerciales ne sont pas relancées. Parce que c'est le plus terrible dans la relation commerciale que de relancer son prospect 8-10 fois et de ne pas réussir à le joindre.
C'est vrai que c'est désespérant. Hein.
C'est assez long. Si on arrive à savoir à quel moment le prospect est intéressé, déjà s'il est intéressé, parce que s'il ne l'est pas, on peut aussi le laisser tranquille. Mmh. Et si on peut le joindre pour lui apporter du conseil, du service, ou lui répondre à ses questions, parce que quand on envoie une offre, il n'y a pas tout écrit dessus, on ne comprend pas toujours. Il est souvent très content d'être appelé.
D'accord. Ah oui, racontez-moi concrètement comment le logiciel, quels sont les. Moi, je suis client de Tilki, j'utilise ce logiciel. Quelles sont les informations qu'il va m'apporter par rapport aux offres que je mets en ligne et qui sont lisibles en ligne?
Ce sont vos documents, doc, PPT, PDF, ce que vous voulez.
OK.
On met des trackers invisibles dans ces documents. PowerPoint, tout à fait. Dès que votre prospect ouvre votre document, on va analyser ce qu'il fait, ses mouvements de souris, les pages qu'il lit. L'ordre des pages, est-ce qu'il commence par le prix avant de lire la proposition? Est-ce qu'il va regarder les CGV, vos annexes? Est-ce qu'il s'intéresse à l'ensemble de votre projet ou pas?
Dès qu'il ferme, rentrer dans la tête du type qui est en train de consulter mon offre en ligne pour savoir exactement à quoi il a pensé, comment il a organisé la lecture du truc.
Non, c'est les faits plutôt. Ils suivent les faits de.
Mais comme en 2015, plus de 150 000 offres ont été envoyées avec Tilki, nos clients nous ont dit s'ils avaient gagné ou perdu les offres. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut détecter une lecture chaude, donc quelqu'un qui est vraiment intéressé, ou inversement, une lecture froide, quelqu'un qui n'a pas envie. Et ça, c'est alors pas tout à fait dans la tête, c'est plus dans la souris des gens, parce que c'est en fonction de ce qu'ils vont faire sur le document qu'on va pouvoir analyser leur
la
intérêt.
La souris des gens, elle est dictée par la main qui est dictée par la tête. Hein.
Peut-être.
C'est incroyable, votre truc.
Nicolas Dose, vous soyez dans la tête des gens.
Non, mais ça me fascine. Je suis là pour évidemment caricaturer un peu, parce que lui, il me le fait avec un discours un peu corporate. Moi, je lui fais avec un discours un peu de saltimbanque. Mais à l'arrivée, vous avez véritablement aujourd'hui, vous avez quoi? 320 clients, 1800 commerciaux, entreprises clientes, 1800 commerciaux utilisateurs de votre produit. Vous devez commencer à avoir un petit track record, là, savoir un peu ce que ça donne.
Depuis janvier, on a multiplié notre chiffre d'affaires par 4. On vient de signer un gros partenariat avec Adeco.
En avril et depuis janvier. En mai,
oui. Oui. C'est que nous, on travaille sur de l'abonnement mensuel et de la licence mensuelle.
D'accord.
Donc ce qui est important, c'est le chiffre d'affaires récurrent mensuel.
D'accord. Et donc là, aujourd'hui, les commerciaux qui utilisent vos solutions en sont contents.
Ah, ils sont plus que drogués. Aujourd'hui, ils se demandent...
Ils sont addicts. Ça change leur life.
Ça peut changer la life. Vous savez que j'ai une spécialiste de la vente autour de ce plateau, dans la personne des techniques quand même. C'est absolument. Donc vous allez après savoir à qui il faut envoyer des relances.
Du cerveau. Donc
on sait à qui il faut envoyer des relances. J'imagine que vous vous occupez des relances automatiques et tout ça. Enfin tout est.
On sait surtout quand il faut la faire. Parce qu'aujourd'hui, chez un de nos clients, Orange Agence PME, ils faisaient leur relance au bout de 15 jours, généralement après avoir envoyé une offre à une PME. On s'est rendu compte avec Tilki que leurs offres étaient ouvertes dans les 24 heures après l'envoi et plus jamais 5 jours après l'envoi. Donc quand vous l'envoyez, quand vous rappelez au bout de 15 jours, c'est 10 jours trop tard.
Bon, je suis tellement passionné que j'en ai quasiment grillé une minute de la suite. Allez, allons plus loin tout de suite avec Eve Chégaret et Evelyne Platnik-Cohen.
BFM Academy, saison 11, ils y croient. Mais croirez-vous en eux ?
Bon, ils sont à vous, Eve Chégaret, Evelyne Platnik-Cohen. On va commencer avec notre premier candidat avant de marquer une pause dans cette émission. Il s'appelle Adrien Deloupaoli. Il est venu nous voir avec de rigueur. Il a passé les castings à Lyon. Il a été retenu par Eve, il a été retenu par le jury. Il est là aujourd'hui avec nous. Allez-y.
Bah, déjà, je pense qu'on a la même question.
On a la même question,
Eve et moi, c'est sûr. C'est à quand dans un sac à main ?
Parce que nous, on veut ça dans la petite poche interne du sac à main.
On rappelle, hein, ce sont effectivement des produits haut de gamme, maroquinerie, made in France, totalement maintenant liés à nos produits high-tech, technologiques, le smartphone et en l'occurrence, le Connected Sleeve qui sert à recharger un téléphone, mais visiblement, c'est assez masculin.
Très rapidement. En fait, on est en train de développer toute une offre de services d'accompagnement du bureau de la fashion tech, en quelque sorte. Notre objectif, c'est de devenir le leader de la fashion tech. Et donc, on travaille avec des marques pour intégrer dans leur collection ces solutions. Donc aujourd'hui, c'est la recharge de smartphone par induction électromagnétique. Demain, ça pourrait être du Wi-Fi embarqué, du tracking d'activité dans des bracelets de montre, par exemple.
C'est quoi du tracking d'activité ?
Tracking d'activité, le nombre de pas que vous faites.
Oui, mais ça, c'est déjà fait, ça.
Voilà, mais pas forcément dans des bracelets de montre traditionnels. Voilà, nous, on se positionne on se positionne entre la tradition, la modernité, l'élégance et la praticité.
T'arrêtes d'avoir un gros truc dégueulasse orange fluo au poignet pour avoir un joli bracelet.
On trouvait sa Rolex. Quoi d'autre ? Faites-nous rêver. Qu'est-ce que vous avez comme idée ? Qu'est-ce que vous avez envie d'intégrer aujourd'hui dans notre quotidien ? Sur nos vestes, dans nos sacs à main ?
Parlons de sacs à main, puisque en face de nous, on a très belle femme, donc on parle de sacs à main.
Comme ça, vous pourrez nous séduire.
Aujourd'hui, on a plein d'idées pour les sacs à main, que ce soit sur la recharge de smartphone, mais par exemple aussi de l'ouverture de sacs par empreinte digitale. Par reconnaissance vocale, ça pourrait être énorme. Et là, on a énormément de choses à faire. Le champ des possibles est énorme et tout est faisable, en fait. Tout est faisable. On a une équipe d'ingénieurs électroniciens, d'ingénieurs mécaniciens. On s'est entouré avec des partenaires qui sont spécialisés dans les objets connectés et sur toutes ces problématiques.
Quel genre de partenaire, alors, pour être spécifique ? Vous êtes en mode « je peux rien dire sur personne », ou...
Si on a des designers, on a des partenaires designers. On travaille avec Helium Studio, qui a designé toute la ligne d'objets connectés de Withings, par exemple.
Ah oui.
On travaille avec un bureau d'études à Lyon qui s'appelle Ayrton, un bureau en mécanique qui s'appelle ABMI, et on a des compétences aussi en interne qui nous permettent de faire le lien entre la mode et les objets connectés. Parce qu'aujourd'hui, personne n'a ce savoir-faire en fashion tech en France et dans le monde, a priori.
Mais ce que je voudrais comprendre, c'est comment vous êtes accueillis par les marques que vous allez voir, donc a priori traditionnelles. Je ne sais pas si vous pouvez les citer, celles avec qui vous êtes en train de travailler.
D'après ce que j'ai compris, il y a des négos en cours avancés, mais qui resteront un peu confidentiels.
Je ne sais pas, vous discutez demain avec Hermès, par exemple, ou vous contactez Hermès, ils vont vous dire quoi ? Ils vont vous dire, oh, petit jeune homme, ça va, on fait du Kelly en croco depuis 100 ans, on n'a pas besoin de vous.
Exactement. En fait, ils nous accueillent plutôt comme des partenaires. Parce qu'aujourd'hui, leur cœur de métier, c'est bien ça, c'est bien la maroquinerie, c'est la veste, c'est le textile. C'est pas forcément les nouvelles technologies. Et donc, eux, ce qu'ils veulent, c'est d'avoir quelqu'un qui arrive avec des solutions, soit clé en main, soit qui les accompagne de A à Z sur leur projet.
Vous avez des anecdotes plus précises ? Comment vous avez été reçu, sans même citer les marques, mais des exemples où vous avez été plutôt bien reçu et des exemples où on vous a dit « non, mais c'est pas le sujet en définitive ».
On a été super bien reçu à Paris par une marque...
24 faubourgs. Allez-y, continuez.
On a été très bien reçu en fait par une personne qui était très enthousiaste et qui voulait proposer une ligne de veste pour le Pitti Uomo, là, en 2016, en juin, donc à Florence.
Le Pitti Uomo, vous savez, c'est le salon de prêt-à-porter masculin. À Florence, c'est la Mecque.
Heureusement qu'elle est là, parce que je ne peux pas prêter à porter. Qu'est-ce que c'est que ce truc ?
Et donc, il nous a très bien réussi en nous disant, mais c'est le prochain truc, ça va exploser, ça sera extraordinaire, je veux que vous me le sortiez là.
Ça, c'est une marque confidentielle. On sent dans ce que vous dites que c'est une marque confidentielle.
Non, je crois qu'on va le savoir bientôt.
Direct. Non. On commence aussi petit à petit. Il faut convaincre aussi par rapport à notre taille. On est une petite structure, donc il faut donner confiance. Et demain, on ne travaillera pas avec Louis Vuitton parce qu'ils vont aller chercher des clients et des partenaires de leur taille.
Et puis,
c'est l'objectif.
Ça existe.
Et puis, c'est tellement gros LVMH que de toute façon, je pense qu'ils ont déjà des équipes qui planchent sur ce genre d'idées. Pas en interne.
Parce que c'est pas leur core business.
C'est typiquement, là, on fait des spin-off dans les boîtes où on va chercher des start-up qu'on rachète, d'ailleurs.
Ça, par exemple, les grands groupes général, donc pour ça aussi. Qu'est-ce qui vous donne le plus confiance dans la suite des événements pour vous ?
Le taux de croissance des objets connectés. Et puis ce monde qui est en train de complètement changer avec l'intégration d'intelligence dans notre quotidien entier. Et les vêtements, ça sera the next big thing. Les vêtements, c'est ce qu'on porte au quotidien. Nos accessoires, nos vêtements, c'est ce qui nous caractérise. Mais plus loin que ce qui nous caractérise, c'est ce qui va nous permettre de répondre à nos challenges quotidiens. Donc une cravate, par exemple, qui peut faire micro et qui peut enregistrer tout ce que Monsieur Dose dit sur le plateau.
Toute la journée.
Voilà, même c'est quelque chose qui répondrait.
Ça veut dire qu'on peut savoir ce que mon mari raconte à 18h30, même si je ne suis pas avec
car
lui.
Car il n'est pas au courant que vous lui avez offert une cravate de rigueur, sleeve connected.
On va éviter d'entrer dans ces problèmes de coup.
Bon, d'accord.
Ça peut devenir trash.
Comment vous êtes organisé en interne ? Parce que vous avez plein d'idées, mais en définitive, il faut
quand
même
beaucoup
de monde.
Parce que vous êtes que 3 aujourd'hui. 3, et je rappelle, 90 000 euros de chiffre d'affaires à mars 2016, 11 000 euros la première année. Vous n'êtes pas non plus sur des sommets stratosphériques.
On est en pleine croissance.
En pleine croissance, quand même.
Ouais, exactement. On est 3, donc dans l'équipe, on a une ingénieure électronicienne, donc Elodie Biensman, qui s'occupe de toute la partie pré-études, qualification et proposition, donc tarifaire sur tout ce qui est développement de nouvelles technologies pour nos partenaires. Moi-même qui m'occupe beaucoup plus de la partie commerciale, recherche de fonds, financement et puis...
Vous appelez recherche de fonds et financement ?
Financement.
Ça, c'est
privé
du commercial pour vous ?
Du commercial. Non, c'est les deux parties. Donc, tout ce qui est recherche d'argent, en général.
Il veut passer plus de temps avec ses clients qu'avec des fonds. Généralement, ça aide.
Exactement. L'objectif, c'est de s'autofinancer assez rapidement. Et puis, donc, la troisième partie, c'est un sauveteur. C'est une personne qui s'occupe de toute la partie digitale, la partie software de la société.
D'accord.
Walid Jebar.
Et idéalement, plus de... Enfin, quand vous commencerez à avoir des chiffres d'affaires plus conséquents, vous recruteriez quel type de poste ensuite ?
Une personne sur du business development pour m'accompagner sur la partie B2B et aller beaucoup plus vite sur tout ce qui est génération de leads, puisque c'est la question aujourd'hui. Et puis, une partie électronique, avoir un autre ingénieur électronicien dans l'équipe qui nous permette de gérer la partie prototypage en interne.
Vous avez des concurrents, vous avez vu en Asie, aux US, des gens faire ça ?
Entre les deux, en fait, personne n'a développé ce savoir-faire, puisque nous, exactement ce que vous disiez tout à l'heure, on est parti d'une marque de maroquinerie sur laquelle on a acquis des savoir-faire au niveau artisanal et au niveau mode, et on a intégré de l'électronique. Et aujourd'hui, d'être entre les deux, d'être capable d'intégrer avec du design de l'électronique dans des vêtements et dans des accessoires, aujourd'hui, personne ne sait vraiment le faire. On a aujourd'hui des bureaux d'études qui savent développer des choses, mais qui ne vont pas penser design, qui ne vont pas penser intégrabilité et qui ne vont pas penser justement l'élégance que recherche la mode.
Et le Made in France, c'est vraiment dans votre ADN, sachant qu'automatiquement, a priori, ça fera que vous aurez des produits forcément un peu plus chers que s'ils étaient sous-traités à droite à gauche.
C'est le cas.
Une bricole. Juste
et on a fini
un mot
après.
Pour conclure, mais je crois que vous recherchez encore à lever des fonds pour boucler la fabrication. Vous cherchez combien ?
Aujourd'hui, on cherche 500 000 euros pour boucler l'industrialisation. Et on est en bonne voie.
Bon, super.
Bon, écoutez, voilà. On va marquer une pause dans cette BFM Academy première, la première de la saison, avec aujourd'hui Sylvain Tillon et Tilki face à Adrien Delou, Paoli et De Rigueur. Alors, on va faire le petit exercice de questions-réponses dans un instant avec Evelyne Platnikoen et Eve Chégaret autour de Tilki et de son logiciel tracker spécial pour les commerciaux. À tout de suite.
BFM Academy, saison 11, le 20 juin. Il n'en restera qu'un. BFM Business présente le premier concours de créateurs d'entreprises. BFM Academy, saison 11, avec Nicolas Dose.
C'est la première émission de la saison avec Evelyne Platnik-Cohen qui devra choisir en fin d'émission entre les deux candidats avec nous cette semaine, les deux premiers de cette saison, qui sont d'un côté Adrien Deloupaoli, qui est venu nous présenter de rigueur, hein, les accessoires de maroquinerie haut de gamme, innovants, made in France, mariage entre la maroquinerie, la classe, j'ai envie de dire, et les produits high-tech. Et face à lui aujourd'hui, Sylvain Tillon, qui est également à passer les castings de Lyon avec Tilki. On en parle tout de suite. Voilà, Sylvain Tillon avec Tilki. Donc, on a commencé à discuter un peu de son produit tout à l'heure. Il est venu nous présenter un logiciel tracker fait pour les commerciaux qui va vous dire comment vos prospects, vos clients potentiels lisent, apprécient, comprennent vos offres en ligne. Et c'est quand même super subtil, super techno. On l'a bien compris. Seulement, les résultats sont à l'arrivée. Ceux qui utilisent aujourd'hui les produits Tilki, c'est-à-dire 320 entreprises aujourd'hui en France clientes, soit 1800 commerciaux utilisateurs, eh bien, ont vu leurs résultats commerciaux et leurs ventes tout simplement sacrément progresser. Donc, ça fonctionne. Et donc, j'imagine que ça a sûrement passionné, notamment Evelyne Platnik-Cohen, qui est un peu la passionnariat de la vente dans cette équipe de la BFM Academy.
Ouais.
Et Eve aussi. Allez-y.
C'est un vrai sujet.
Oui,
parce
ma religion ne s'y oppose pas.
Non. Attendez, sur BFM Business, s'il y a bien un adage, c'est vive les vendeurs, hein. Ça, vous savez.
Moi, la première question que, je vais être très indiscrète, hein, c'est de savoir qu'est-ce que vous avez appris sur les offres commerciales en fin de compte. Vous devez avoir plein de chiffres clés, vous devez savoir qu'est-ce qu'une bonne offre, une mauvaise offre, qu'est-ce qu'elle doit contenir. Vous avez dû apprendre plein de choses ces derniers mois.
Un premier chiffre qui peut faire un peu peur. Quelle que soit la taille de votre offre, quel que soit votre nom d'entreprise, le temps de lecture moyen, c'est 2 minutes 42.
Retenez 2 minutes 42. Donc 77,
le temps de lecture moyen.
Pas en 2 minutes 42.
D'accord. Le temps de lecture moyen du gars qui regarde l'offre, c'est 2 minutes 42.
Ça veut dire qu'on ouvre et qu'on va directement à la case combien ça coûte? C'est ça ?
Alors, c'est une des lectures. On ouvre, on va au bout, et si le prix correspond à peu près à ce qu'on était prêt à mettre, on revient dessus. Mais ce qui va détecter l'intérêt, c'est s'il revient voir plusieurs fois le prix. Parce que généralement, dans l'explication, il va dire « Ah tiens, ça, j'avais pas vu dans le devis. » Il va vérifier que c'était bien intégré dedans. Donc, c'est comme ça qu'on va détecter des intérêts forts ou pas. On sait qu'au-delà de 12 slides, on manque de temps pour le lire. Donc, le temps moyen de lecture par slide, c'est 14 secondes. Hein. Donc, si on met énormément d'infos, si on met zéro couleur, clairement, les gens vont passer moins de temps dessus. Après, selon les clients, les gens vont venir plusieurs fois ou pas sur votre document. En moyenne, le nombre de lectures, c'est 2,2. Votre prospect revient deux fois sur votre offre.
C'est le même qui revient ou quand il le fait diffuser, on sait qu'il le diffuse, on garde ce savoir. C'est-à-dire, bon, il lit sa proposition, c'est qu'on est dans un processus de décision relativement complexe, donc ce n'est pas le seul à lire la proposition. Il y a d'autres personnes qui vont la lire.
Et ça, c'est une détection d'actes d'intérêt, enfin d'intérêt qui est ultra forte. Quand il transfère à un collègue, on va détecter que c'est un autre ordinateur, clairement un collègue. Et là, vous pouvez savoir que vous avez de grandes chances de signer, c'est que la proposition tourne en interne.
Mais comment ça détecte? Bon, je pense qu'on ne peut pas rentrer dans le détail de la techno, mais comment vous faites pour savoir que ça va sur un autre ordinateur?
Là, c'est un peu Michel Chevalet, comment ça marche?
Alors, comment ça marche?
C'est ouvert sur une autre IP, sur un autre navigateur, sur même un autre processeur. On va voir si c'est un Mac ou un PC, ou on va voir si c'est un téléphone ou une tablette. Donc, on va pouvoir savoir que c'est un autre ordinateur. On ne saura pas autrement que c'est une autre personne.
Alors c'est mécaniquement. Oui. Mécaniquement, déjà, ça se passe comment? Comment vous intégrez la proposition? Est-ce que c'est une demi-heure de plus à chaque fois que j'ai une proposition? Et pour rentrer dans votre mécanique, hein, parce que déjà, l'utilisation de nos CRM, de notre
retargeting, c'est lourd.
On n'en peut plus. On n'en peut plus, tous ces trucs. Est-ce que c'est un truc hyper lourd ou pas, en fin de compte?
C'est ce qui fait le succès de cette année. C'est qu'on est intégré dans les principaux CRM et dans les principales messageries. Aujourd'hui, si vous utilisez Gmail, Office 365 ou Outlook,
ça veut dire quoi, c'est intégré? Ouais.
Vous avez un petit bouton à côté du bouton télécharger, un petit bouton de Tilki. Vous mettez votre document dessus et automatiquement, ça rajoute les trackers dedans. Et automatiquement, vous allez recevoir les alertes de lecture et toutes ces infos. Donc aujourd'hui, c'est un clic.
Un clic. Et qu'est-ce que vous savez aujourd'hui sur l'augmentation du taux de closing avec ou sans Tilki?
Alors, il faut déjà connaître son taux de closing.
Bonne réflexion.
Evelyne.
Ouais, pas toutes les entreprises en France qui mesurent combien de devis envoyés, combien de baux de commande.
Je crois même que vous trouvez que à peu près personne ne le sait. C'est un peu votre regard sur le sujet en France.
Ce n'est pas une des métriques principales, malheureusement. Et pourtant, moi, ça vient de là. Sur ma première entreprise...
Mais oui, parce que c'est venu de votre propre besoin. Vous aviez une boîte avant et vous avez voulu...
J'étais un acharné de la relance.
Ouais.
J'envoyais un devis, je voulais avoir une réponse. Donc j'ai appelé 8, 10, 12 fois pour être sûr d'avoir une réponse.
Le gars qui harcèle, quoi.
J'avais pas le choix, j'avais pas beaucoup
de prospects. La maladie de la relance, alors ça j'en parle beaucoup. J'ai des vidéos sur Internet sur la maladie de la relance, mais c'est une des plus grandes maladies des commerciaux aujourd'hui dans le monde.
Mais la maladie de la parole, c'est encore pire pour moi. Mais j'appelais beaucoup, donc j'avais des réponses. Et j'avais un taux de transformation de 28%. C'est-à-dire qu'en gros, un devis sur quatre, je le signais.
Et c'est correct ou pas?
Oui, c'est dans la moyenne. Peut-être
qu'un devis sur quatre, c'est...
Moyen.
Ouais,
moyen bon.
C'est moyen. C'est moyen.
C'est passable.
J'appellerais pas ça moyen bon.
Mais le pire, c'est qu'après, j'ai commencé à avoir de plus en plus d'appels entrants, de prospects qui voulaient travailler avec nous. Et c'est quand même beaucoup plus drôle de travailler avec un prospect qui veut travailler avec vous, de répondre à son besoin, que de rappeler quelqu'un qui vous a pas répondu. Et malheureusement, j'ai vu mon taux de transformation baisser à 20%.
Pourquoi?
Je rappelais plus. Mes prospects m'ont dit, Sylvain, désolé, t'étais bien placé, on préférait ton offre, mais ton concurrent nous a rappelé, il nous a montré qu'il était motivé, il a répondu à nos inquiétudes, c'est avec lui qu'on bosse.
Il y a plus de proactivité, ouais.
Et la perte de temps sur des prospects où vous pensez que vous avez signé et pour autant il a jamais ouvert votre offre, maintenant que je sais, je passe moins de temps, je mets moins d'efforts commerciaux dessus. Et du coup, c'est au départ pour moi que j'ai créé ça. Identifier ceux qui voulaient vraiment travailler avec moi, être le premier à rappeler et au bon moment, et identifier ceux aussi qui n'étaient pas intéressés pour y mettre moins d'efforts. Ça n'empêche pas que je les oublie. Quelqu'un qui ne lit pas votre offre, c'est intéressant comme info. Surtout si vous avez un rendez-vous la semaine d'après, il n'a toujours pas regardé. Qu'est-ce que vous faites pour lui faire lire?
Pour l'impliquer.
Est-ce que vous allez en rendez-vous? Est-ce que vous lui dites?
Alors, monsieur, vous l'appelez, vous dites, écoutez, monsieur, vous n'avez rien lu du tout, donc le rendez-vous, on va peut-être le reporter le temps que vous ayez le temps de le lire.
Et qu'est-ce que vous faites, vous, Sylvain, alors
dans l'idée, c'est plus de lui dire, est-ce que vous avez bien reçu mon offre? Généralement, il dit oui. Vous avez vu que je vous ai fait une offre spéciale. Elle est disponible que jusqu'à mercredi prochain. Donc, j'ai besoin d'une réponse rapide.
Donc, il y a un timing dans l'ouverture de la proposition.
On peut aussi lui fermer après une certaine date, tout à fait. D'accord. Lui interdire d'y accéder après une certaine date.
Ah, pas gentil,
pas
le
gras, pas de chocolat.
Et si dans l'heure qui suit cet appel, il ouvre pas, c'est mort, généralement. Alors, mais ça, c'est un des usages.
J'entends bien votre histoire. Je suis fasciné par ce que vous racontez.
C'est fascinant.
Par la manière dont la techno permet finalement de faire du business, de doper ses ventes. Et ça, je suis absolument certain que ça va fonctionner. Seulement, vous êtes dans un univers du web où toute cette question de la protection des données, de la protection des individus, de jusqu'où effectivement la technologie va rentrer dans l'intimité, et l'intimité professionnelle, peu importe. Il y a un moment... Et ça va arriver, et c'est d'ailleurs, ça fait partie des éléments qui menacent aussi les business des grands comme Criteo. Il y a un moment où le régulateur va s'en emparer. Il y a un moment où le régulateur va mettre son nez dans le truc, va prendre des décisions tranchées, des décisions définitives. Est-ce que vous n'avez pas un moment où le régulateur risque de prendre des décisions qui va tuer totalement votre business?
Moi, c'était mon point. C'est le côté légal et puis même le côté
Big Brother.
Je sais pas si c'est pas
oui,
éthique,
mais il y a le côté Big Brother, il y a le côté légal. Pour l'instant, c'est pas régulé. Il y a effectivement une formidable...
C'est très régulé.
Oui, enfin, c'est très régulé tout en n'étant pas régulé.
Dites-nous alors.
Est-ce que vous avez pas un jour peur que le régulateur mette stop, dise stop à votre business?
Alors, on travaille vraiment de concert avec lui. On a fait un gros boulot avec la CNIL et la réglementation européenne sur la data privacy. Parce que c'est un vrai sujet et c'est même une peur de certains de nos clients. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a certaines infos qu'on ne peut pas récupérer, qu'on ne peut pas récolter. Quelque chose de très important, on ne dépose rien sur l'ordinateur de la personne qui ouvre le document. Ce n'est pas lui qu'on note, mais c'est la lecture. On ne laisse aucun cookie. On ne lui mettra pas de pub par après. Il ne sera pas submergé d'infos sur votre société.
D'accord.
On ne récupère pas exactement sa localisation. On peut savoir sa région ou la ville dans laquelle il ouvre, mais on ne pourra pas savoir sa rue, alors qu'on pourrait le récupérer. On ne pourra pas savoir si c'est lui qui ouvre. Je vous envoie une offre à vous, Eve. Si vous voulez transférer votre assistante à votre collègue ou une amie, je verrai qu'il y a une lecture, mais je ne saurais pas qui
imagine
c'est.
Imagine-t-il qui allume la webcam pour mater qui est derrière.
Non, c'est totalement interdit. Bah vous faites très attention à ça.
Vous vous empêchez presque de empêchez de faire des choses que vous pourriez faire.
Mais justement, est-ce qu'il pourrait vraiment le faire, en fin de compte?
Technologiquement, on pourrait le faire.
Ouais.
Mais l'idée, c'est de rester dans les règles pour être optimisable.
Bon. Nicolas dose à ses vapeurs.
Non, mais c'est des trucs, c'est quand même des business absolument incroyables. Et honnêtement, la BFM Academy, il y a 10 ans, n'aurait jamais eu des gens comme ça.
Mais imaginez que vous envoyez un CV de motivation comme ça. Aujourd'hui, on lance une plateforme avec Adeco pour que les candidats envoient des CV et lettres de motivation traquées.
C'est votre coup d'après, ça, en fait.
Savoir quel employeur regarde votre profil.
Et la lettre d'amour traquée.
Chérie,
tu n'as pas du tout aimé le paragraphe où je disais...
C'est toujours à la fin de la petite scénette de présentation qu'on a le coup d'après. Là. Effectivement, ouais, pour le bon. On va passer à la partie 3 de cette émission, avant la partie 4, qui sera le terrible choix d'Evelyne Platnikon. Mais bon, la partie 3, avant, c'est la bouche du coach, on y va.
BFM Academy, la mouche du coach.
Bon, maintenant qu'on vous connaît un peu mieux, on va se permettre de vous dire ce qu'on pense de vous. C'est le principe de cette émission, c'est le principe de la mouche du coach. C'est cool, c'est pas moi qui fais le job, ce sont Evelyne et Eve Chigaret. On va commencer avec notre candidat numéro 1. On est choisi par ordre alphabétique, hein. C'est de rigueur, ça passe avant Tilki, D, T, voilà. C'est de rigueur, c'est le candidat numéro 1. Adrien Deloupaoli qui est donc venu nous présenter cette entreprise qui propose des accessoires de maroquinerie haut de gamme, made in France, mariage entre la mode et la technologie, toutes les technologies qui ont envahi nos vies aujourd'hui. Allons-y.
Est-ce que j'ai le droit de dire que je me suis battue pour qu'il soit là aujourd'hui? Est-ce que j'ai le droit de le dire, ça?
Ça fait partie de ces délibérations un peu trash, c'est vrai. Pendant les délibérations, ça a été un peu chaud.
Ça a été très chaud. Je me suis disputée avec mes copains à cause de vous. Voilà, avec les autres coachs.
Merci.
Parce que, pourquoi j'ai eu cette espèce de lubie? Parce qu'en définitive, certains m'ont dit, mais tu le connais, c'est pas possible, c'est ton frère, c'est ton cousin. Et pas du tout, on se connaît pas. Mais en fait, tout est lié toujours à BFM, puisque j'étais au 01 Forum Business, il y a quelques mois, quelques semaines à peine. Et j'étais assis à côté du président du groupe Richemont. Et on était tous les deux en train d'observer Air Liquide et Accor en train de parler de leur lab. Et je le regarde à côté, parce que je fais sa connaissance, je le regarde, je dis, mais vous avez bien un lab techno, parce que moi, demain, là, dans vos sacs à main, moi, je la veux la connexion, je la veux la géolocalisation à 2000 ou 3000 ou 4000 euros le sac à main. Et il m'a regardé et il m'a dit, on n'a pas, mais le fait de venir justement au 01 Forum Business fait qu'il était en train de se réveiller. Et c'était quand même le président du groupe Richemont, hein. C'était pas un numéro 1, numéro 2, numéro 3.
Stanislas de Quercy, j'ai sa carte et son 06.
Moi aussi.
Attention.
Donc Stanislas, si vous nous écoutez. Et franchement, là, clairement, moi, j'achète des sacs à main pas à ce prix-là, un peu moins cher, mais malgré tout assez cher. Et j'aimerais tant que tous ces sacs à main, enfin, j'attends qu'ils soient en effet connectés, j'attends qu'ils soient géolocalisés, le minimum acceptable, le minimum syndical.
Vous n'avez pas besoin de mettre votre empreinte digitale sur votre sac pour l'ouvrir.
Peut-être pas ces gadgets, mais au moins qu'ils puissent avoir ce système de chargement intérieur, mais ne serait-ce que géolocalisé. On l'a perdu, on ne sait pas où il est, ça arrive quand même assez, assez souvent. Donc, moi, je trouve que, voilà, quand j'ai vu votre dossier, c'est ça que j'ai vu. Mais en fait, d'un côté, j'ai vu tout cet espoir, tout ce que j'avais envie d'avoir, et je parle pas des hommes, leurs vestes, etc. Puis d'un autre côté, quand j'ai lu le dossier, je me suis posé vraiment la question où vous en étiez. Bon, vous êtes jeune, hein, je crois que vous avez 25 ans, donc c'est normal que vous soyez au début de l'aventure. Mm-hmm. Mais en fin de compte, est-ce que vous avez un axe plutôt B2C? Est-ce que vous êtes plutôt B2B, en définitive, dans votre stratégie? Ce qui change complètement la stratégie. Et je pense que si vous voulez être trop B2C au départ, ça coûte cher, ça demande de la notoriété. Et puis ça vous oblige à aller jusqu'au bout, non pas seulement de la technologie, mais aussi du produit autour. Donc voilà, ça demande d'autres types d'investissements. Si vous êtes B2B, ça veut dire que vous n'êtes peut-être pas besoin d'être aussi beau, aussi bien apprêté, mais plutôt de prendre un sac, une valise et d'aller chercher, de faire vraiment du commercial pour faire de la pénétration de compte. Donc quelle est votre vraie stratégie, quoi? Moi, c'est ça ma vraie question.
Alors, B2B, B2C, j'ai failli vous poser la question tout à l'heure. Réponse brève, hein, parce qu'Ève n'a plus que 2 minutes après.
Réponse brève alors. Notre stratégie, elle est clairement axée sur le B2B. Sur le B2B et l'accompagnement des marques. Parce que justement, des groupes comme Richemont, comme vous venez de le souligner, ne sont pas équipés avec des labs en interne pour trouver la prochaine idée, la prochaine innovation sur la prochaine collection. En étant tout à fait honnête, on a commencé comme une marque de haute maroquinerie connectée. On a commencé par le B2C et on s'est rendu compte que c'était très cher. C'est des millions et des millions d'euros d'investissement dans du marketing. On a fermé et on est en train de complètement fermer la partie B2C.
Okay, donc vous avez tout compris, Eve.
1 minute 30, Eve Chigaret.
Vous savez quoi?
Un moustique du coach, là.
Ouais, moustique du coach. Je vais me servir de votre situation pour parler un peu à toutes les startups. Mm-hmm. Ce qu'on vit là avec vous, d'abord, je sais qu'on vous retrouvera un jour dans quelque chose certainement d'encore plus grand, c'est vraiment la vie d'une startup. Entre le moment où vous avez été candidat et le moment où on se parle aujourd'hui et la diffusion de l'émission, il s'est déjà passé tellement de trucs que le dossier, il est presque obsolète. Parce que chaque semaine, vous avez des rendez-vous avec ces grands comptes. Parce que chaque voyage, chaque rencontre, etc. amène une nouvelle opportunité. Ça évolue à une vitesse dingue. Et moi aussi, au 01 Business Forum, j'ai cru que c'était quelque chose de plutôt B2C. Et en fait, non, vous êtes amené à d'autres choses. Evelyne a donné un feedback parfait. Moi, je fais le pari, vous avez envie de réagir, mais je vais quand même vous dire un truc. Je fais le pari que avec d'autres partenaires, vous seriez encore plus fort. Je pense qu'on va vous retrouver dans quelques années dans une position dominante sur ce sujet-là. Il faut absolument qu'il garde son élégance.
Oui, il est beau,
et
il
que,
est beau.
Et que même en allant démarcher, etc., il reste d'un chic absolu. Oui, c'est j'adore l'idée de l'empreinte digitale. Ça pourrait être juste sur une poche à l'intérieur d'un sac. On a un cabas, un truc un peu souple.
Avec des documents confidentiels.
Et voilà. Et
alors, en un mot, vous êtes beau, restez beau, mais ne restez peut-être pas seul.
Ne restez pas seul.
Pas que à trois.
Alors, il y a deux choses, je veux réagir. Ça, en fait, c'est la preuve qu'on est capable de le faire.
Ça, c'est le Connected Sleep, si vous nous écoutez qu'à la radio.
Carte de visite.
C'est la carte de visite, c'est d'aller voir les grands comptes et de leur dire, voilà, on l'a fait, on sait le faire, c'est notre preuve de marché, notre preuve de concept, comme on l'appelle. Et la deuxième chose, du coup, on s'entoure énormément. Et pour moi, le réseau est fantastique et très important.
Oui.
Et on est suivi par showroom privé, par exemple, chez Look Forward.
Tilki, pardon. Tilki, également le casting de Lyon avec Sylvain Tillon et son logiciel tracker qui permet tout simplement de traquer vos propositions commerciales et d'optimiser vos ventes, tout simplement, j'ai envie de dire. Donc là aussi, Mouche du coach, Evelyne Platnik-Cohen et Eve Chigaret.
Je réduis pour laisser plus
mais
de café.
Mais fais-toi plaisir.
Là, Sylvain, en fait, j'ai fait quelque chose, je ne vous l'ai pas dit, mais j'ai testé la solution. C'est-à-dire au moment où j'ai su, j'ai testé pendant 15 jours la solution. Et j'ai eu deux histoires. Je lui ai envoyé deux propositions en 15 jours, elle ne fout pas grand-chose, Evelyne, en ce moment. Mais il s'est passé deux choses.
À force de traîner dans les business forums et...
Un peu plus. Bon. Remarque de Richemont, s'il veut travailler avec moi, c'est avec plaisir aussi. Donc, en fait, il s'est passé deux choses. La première chose, la première proposition que j'ai envoyée, elle a été ouverte 6 fois en 2 heures. Donc, autant vous dire que j'ai envoyé les dates de dispo des consultants, j'ai tout envoyé. Et derrière, j'ai closé le soir même. Et sinon, j'aurais jamais relancé, j'aurais attendu 3-4 jours. Donc ça, c'était ma première histoire. Ma deuxième histoire, elle est assez amusante, puisque, en fait, le type n'a toujours pas ouvert, et j'ai une conf-call avec lui lundi, et je me dis, on est jeudi, s'il l'ouvre pas, ça va mal se terminer, mon histoire. Donc tout l'enjeu, c'est de savoir comment je vais quand même l'inciter à l'ouvrir avant lundi, parce que sinon, si lundi il me dit, bah écoutez...
Le mec, il va s'en prendre une
Daniel, si vous m'entendez, il va falloir l'ouvrir, cette propale. Bon, et donc, je vois bien que là, il se passe quelque chose et que c'est pas tout à fait, je suis pas très contente. Alors, j'ai pas de concurrent en face de moi, ok, mais entre moi et rien, il peut se passer rien. Bon. Donc, je trouve que votre solution est juste exceptionnelle. J'en ai fait la preuve. Moi, j'y crois. Et toute ma force de vente aura cette solution dans les 3 semaines à venir. Donc, vous avez une nouvelle cliente. Moi, je trouve
321 entreprises clientes.
321, voilà. De plus. Des centaines de commerciaux, évidemment, chez Booster. Maintenant, moi, ma vraie question, c'est qu'aujourd'hui, vous aidez les commerciaux, mais je pense avoir une certitude sur vous, c'est que vous n'êtes pas un bon commercial. Donc, en fait, vous vous outillez, mais est-ce que vous ne pensez pas que vous avez un gros travail sur le commerce à faire? Vous pourriez aller encore beaucoup plus vite, commercialement parlant. Allez-vous développer, chercher du business, closer dans votre façon dont vous traitez autour de cette techno, la propale? J'ai l'impression que vous devriez passer chez moi pour savoir un tout petit peu mieux vendre.
Elle vous fait un peu le
client.
Elle vous fait un peu le coup du cordonnier mal chaussé là.
C'est très vrai en plus. Aujourd'hui, dans l'entreprise, on a commencé à organiser par silo le développement commercial. De toute façon, le business développeur à l'ancienne qui fait tout de la prospection au closing, il va disparaître. Moi, ce que j'adore faire et ce que j'aime, là où je suis plutôt à l'aise, c'est d'ouvrir des portes. C'est d'arriver en rendez-vous, de donner envie, de faire sourire.
C'est heureux de venir derrière ta fée.
Et aujourd'hui, on est structuré pour, on a embauché quelqu'un de génial depuis janvier. C'est aussi grâce à lui qu'on a cette forte augmentation de chiffre d'affaires. Il faut être aussi au courant de ses forces et faiblesses. C'est ce que l'entrepreneuriat apprend. Hein. C'est on sait vite, là, on est bon, pas bon. Mais une petite formation booster me ferait peut-être du bien.
Je prends aussi.
Bon, c'est bon, ça, ils sont tous,
bon.
Ils sont tous clients booster. Je trouve ça fascinant et je trouve que c'est la première fois qu'on entend parler d'un outil comme ça qui a l'air d'être respectueux des utilisateurs, des deux côtés d'ailleurs. Mais ça me fout les pétoches quand même. Voilà. C'est-à-dire que finalement, si c'est tellement efficace et si on morcelle tellement le travail du commercial, à la fin, est-ce qu'on a même besoin de réfléchir? Vous voyez, le talent du commercial qui, justement, est de savoir quand faire une relance, quoi mettre dans la relation. Et puis, l'autre truc qui me gêne, c'est... Mais ça me gêne pas tant que ça, hein, mais bon. L'autre truc qui me gêne, c'est que on a l'impression que la relation commerciale, c'est que de l'online. Il faut quand même aller au restaurant un peu dans la vie.
Alors, l'intelligence artificielle qui prend la place de l'intelligence humaine et puis le fait que finalement tout se passe en mégabit et plus jamais autour d'une assiette.
Juste que le commerce devient une science et non plus un art, ça n'empêche que le commercial, le closer, est indispensable. Evelyne, c'est quand même la star de la vente. Et elle vous dit, grâce à Tilki, j'ai pu signer dans la journée. Sans Tilki, j'aurais peut-être mis 3, 4 jours ou plus. Et sur votre rendez-vous, elle y serait arrivée sans savoir. Ça donne des infos. En plus, on ne fait pas la vente. Nous, on ne signe pas à votre place. On n'appelle pas votre prospect pour dire, alors vous avez envie de signer. Mais c'est non, comme un commercial de le faire. Ouais. C'est juste que ça le rend un peu plus intelligent, ça lui donne plus de clés, ça le rassure dans son travail et ça lui permet de n'aller au déjeuner qu'avec le prospect qui est vraiment intéressé et non plus avec celui qui n'a pas lu l'offre commerciale.
C'est du transhumanisme, c'est l'homme, l'homme augmenté.
Et ça veut dire que le commercial est de plus en plus intelligent aussi pour savoir utiliser les outils, savoir rebondir intelligemment. Parce que je ne vais pas appeler moi mon client en disant, monsieur, vous n'avez pas ouvert la proposition.
C'est d'ailleurs, on n'a pas dit ça, mais c'est peut-être chaud quand même de réussir à se familiariser avec Tilki quand on débarque pour la première fois et qu'on devient client de Tilki.
L'idée, c'est que ce soit le plus simple possible à utiliser.
Oui, moi je pense qu'ils ont fait ce qu'il faut.
Ouais, ouais, mais c'est uniquement pour.
C'est très graphique et de mettre
c'est
des notes
pour chercher des trucs salauds, mais voilà.
Bon, c'est quoi l'objectif à la fin de l'année? Combien de millions?
Oui, et puis aussi les autres applications là dont on a commencé à parler au-delà du commercial.
Un million d'euros de chiffre d'affaires. Oui. Enfin, 100 000 euros de récurrent mensuel d'ici septembre. Très important. Et d'autres applications, parce que aujourd'hui dans les documents qu'on veut suivre, il y en a des très importants, notamment CV et lettre de motivation.
Ouais.
Vous cherchez un employeur.
Là, ça me fait encore plus
nouveau job.
Peur.
Mais non.
Mais alors qui va payer là? Parce que c'est, moi je suis au chômage, je cherche un job, j'ai pas les moyens de me payer Tilki, donc qui va payer dans ce nouveau modèle?
Aujourd'hui c'est Adeco qui va payer pour les personnes qui recherchent du travail. Ils nous développent, enfin on développe la plateforme pour eux et c'est eux qui nous financent cette application pour aider les gens à avoir un process de relance de leur candidature. Aujourd'hui, vous envoyez 10 CV par semaine, vous en rappelez combien réellement? Et vous avez combien d'entretiens? Si vous détectez que cet employeur l'a ouvert et en plus a transféré un collègue, appelez-les, attendez pas qu'il vous appelle.
Et j'ai oublié de vous dire qu'il y avait des gens comme Orange, Adeco, CJ de Vespiren, hein, le premier courtier en assurance indépendant en France, ou EDF qui avait fait confiance à Tilki. Bon, ça va se jouer d'ici une minute désormais, même 46 secondes, le temps de faire un petit teasing sur la semaine prochaine, entre d'un côté Tilki et son logiciel tracker, et face à lui, De Rigueur avec ses accessoires de maroquinerie qui font l'alliance entre la classe à la française et la haute techno.
La
semaine prochaine, on aura deux autres candidats, ce sera avec Sylvain Aurébi, et le match se jouera entre Medavise et Wikashop. Un mot très rapide sur chacun d'eux, F. Chegaray.
Medavise, on a tous besoin de conseils médicaux qui ne nécessitent pas d'aller chez le médecin, où on sort de la pharmacie, on ne sait plus comment se servir de son produit, où on reçoit des analyses médicales, on veut une interprétation. On appelle un médecin, une équipe de médecins, grâce à Medavise, et ce n'est pas entre copains qu'on se donne des conseils, ce sont des pros.
Et Wikashop?
Wikashop, il y a plus d'un milliard de gens dans les pays en émergence qui sont peu ou pas bancarisés et qui veulent consommer sur des sites de e-commerce et qui ne peuvent pas payer. Et ben, Wikashop a la solution.
La classe. Voilà. Est-ce qu'effectivement, Medavise, c'est une réponse peut-être à nos problèmes de déficit de sécurité sociale? Est-ce que Wikashop est la réponse aux problèmes de populations qui ne sont pas bancarisées et qui ne le seront sans doute peut-être jamais, comme tous ces gens qui ne découvriront finalement Internet qu'au travers de la mobilité et qui n'auront jamais eu un ordinateur fixe quelque part? Ça, c'est la semaine prochaine avec Sylvain Aurébi. En attendant, on arrive à la dernière partie de cette émission. C'est la plus courte. Ça s'appelle Le choix du coach.
BFM Academy. Le choix du coach.
Bon, je sais que c'est le moment de l'émission le plus trash, le plus compliqué, le plus pénible à vivre, mais voilà, c'est la règle du jeu. Autant,
c'est excitant en même temps.
C'est excitant en même temps. Le lauréat sera élu, vous le savez, par le jury, mais le public, Internet. Là, en l'occurrence, c'est Evelyne Platini-Cohen qui doit trancher entre De Rigueur et Tilki.
Alors, c'est clair que j'ai, je pense, la meilleure émission des cinq émissions qui vont arriver avec les meilleurs candidats.
On va voir.
J'ai un peu sélectionné aussi. J'avais un peu envie de les avoir en face de moi. Et j'en ai pas pris un pour pas prendre l'autre parce que vraiment, vous êtes tous les deux super. Je suis hyper addict de vos deux solutions. Et aujourd'hui, je pense que je vais sélectionner la solution qui est la plus mature et peut-être celle qui a le plus besoin de moi pour la suite, puisqu'il va avoir le droit à un coaching. Il va avoir le droit d'aller encore un peu plus loin. Je pense qu'il en a besoin. Il est près du million et j'aimerais l'amener à 1,5 million cette année. Donc ce sera pas vous, Adrien, cette fois-ci, mais on se reverra, j'en suis sûre, parce que je crois énormément à ce que vous faites et je vous amènerai chez mes clients parce que j'ai des clients qui correspondent complètement à votre cible. Et puis nous, on va continuer l'aventure tous les deux, Sylvain, parce que je crois à ce produit et je crois que vous pouvez aller encore beaucoup plus loin en termes de chiffre d'affaires.
Et Vincent Nicoen a donc choisi comme premier qualifié pour la deuxième partie de cette saison Tilki, représenté par Sylvain Tillon. Cette première émission de la saison est terminée. On se retrouve la semaine prochaine avec Sylvain Aurébi comme censeur qui devra trancher entre Medavise et Wikashop. À la semaine prochaine.
BFM Academy saison 11, le 20 juin. Il n'en restera qu'un.